Vous écoutez Radio PFM, nous sommes le 1er mai 2019, Guy au micro en direct depuis la Grand Place d'Arras où se tient le 18e salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Et nous sommes heureux ici à Radio PFM d'accueillir le lauréat du prix Jean-Amila Mecker 2019, Joseph Pontus. Joseph Pontus, bonjour.
Bonjour PFM, bonjour à toutes les éditrices et tous les éditeurs.
Vous êtes donc, Joseph Pontus, le 15e lauréat du prix de littérature d'expression populaire de critique sociale, prix Jean-Amila Mecker, décerné à l'occasion du Salon du Livre du 1er mai par l'association Colère du Présent, qui organise ce salon, et par le département du Pas-de-Calais. Avant de parler de À la ligne, ces feuillets d'usine, c'est ainsi qu'est présenté en couverture, ou c'est peut-être un sous-titre, hein, c'est ainsi qu'est présenté votre livre, publié par les éditions de La Table Ronde. Avant de parler du livre, avant de parler aussi un peu de vous, savoir comment on en arrive à écrire ce genre de livre, à être publié, à obtenir des prix. Avant cela, je salue Jackie Schwartzmann, qui m'accompagne pour cette rencontre. Jackie Schwartzmann, 14e lauréat du prix Amila Mecker, donc lauréat de l'an dernier, 2018, Jackie Schwartzmann qui a pleinement et parfaitement rempli sa mission de président du jury pour le prix 2019, puisque depuis sa deuxième édition, c'est le lauréat, il faut suivre, hein, c'est le lauréat de l'année N-1 qui préside le jury de l'année N pour le prix. Joseph Pontus, lauréat 2019, présidera donc le jury du prix Amila Mecker 2020. Bien, voilà, ils suivent, c'est très très bien. Alors Jackie, pour la petite histoire, nous arrive quasi directement de Corée, et soyons précis, Corée du Nord s'il vous plaît, où il a participé à un marathon. Alors j'avoue que Colère du Présent avait quelques inquiétudes, mais il est bien là, semblant pleine forme. Hier soir pour la remise du prix, c'était parfait. Et Joseph Pontus, je vous rassure tout de suite, certes, il est demandé au lauréat du prix quelques engagements pour promouvoir les littératures d'expression populaire et de critique sociale, mais ni voyage en Corée, ni marathon ou que ce soit, ne figure au programme du lauréat. Alors, Jackie Schwartzmann, la Corée du Nord, en trois mots.
Quatre mots, ne pas y aller.
Bon, voilà. Voilà, merci.
N'y va pas. Voilà, ce sera quatre mots. Mais.
Voilà, merci Jackie. Bon, alors, nous sommes bien entendu ensemble pour parler du prix Amila Mecker 2019. Je vous signale toutefois que Demain c'est loin, qui a été primé l'an dernier, de Jackie Schwartzmann, vient de sortir en poche. Il est sorti en poche.
Il va sortir en poche en point seuil.
Et quant à la Corée, je pense aussi qu'elle fera l'objet d'une prochaine publication.
Voilà, ce sera un récit de voyage un petit peu décalé sur ma présence en Corée du Nord, sur un séjour de 10 jours avec donc effectivement le marathon au tout début du séjour. Et l'idée, c'est de faire un guide de voyage un petit peu, un récit de voyage un peu décalé et un peu foufou, quoi.
Donc on attend de découvrir voilà, ça, n'est-ce pas, Joseph Pontus?
A priori, ce sera
Pontus.
Au mois d'octobre chez Paulsen. Bon.
Alors, Joseph Pontus, j'ai envie de dire, qui êtes-vous? On a une quatrième de couverture hein, qui donne quelques indications. Né en 1978, des études de littérature à Reims, du travail social à Nancy, et un exercice de la profession d'éducateur spécialisé en banlieue parisienne. Et puis maintenant, vous vivez et travaillez en Bretagne. Voilà, alors peut-être un petit peu de précision, comment expliquez-vous ce parcours, les études de lettres, le social, et puis aujourd'hui la Bretagne, pour faire carrément autre chose, on y reviendra.
C'est les hasards et les choix de la vie. Études de lettres, parce que c'est ma passion. Le travail social, parce que je ne me voyais pas prof. Et puis, j'exerçais comme écrivain public dans un centre social à l'époque. Et donc, j'ai rencontré quelques éducateurs qui m'ont initié à ce beau métier de travailleur social. Et puis, 10 ans comme éduc en région parisienne. Et puis, la magie de l'amour m'a tout fait quitter pour aller en Bretagne, rejoindre mon épouse et me marier. Et j'ai pas trouvé de boulot en Bretagne. Et donc, j'ai dû aller vendre ma force de travail aux agences d'intérim qui m'ont embauché illico dans l'agroalimentaire.
Alors bien sûr, on va revenir hein, sur le livre, sur la forme de ce livre, sur les influences et puis aussi le sujet. Hein, donc cette thématique du monde du travail particulier, des conserveries de poissons et des abattoirs. Mais avant, donc hier soir, lors de la soirée d'ouverture du salon, c'était la remise du prix à Milan Meckeyer. On vous a senti très très ému, Joseph Pontus.
Ben ouais. C'est recevoir le prix à Milan Meckeyer, c'est une joie. Enfin voilà, ce que je disais hier, j'ai lu Jean Meckeyer. Comme grand fan de Polar, j'ai relu Les Bouchers des Hurlus dans le train. C'est vachement bien écrit, c'est super chouette. Et puis, le salon de critique populaire, enfin critique sociale et expression populaire. Enfin, pour moi, ça veut dire quelque chose de très intense au niveau de la signification, parce que comme beaucoup de travailleurs précaires, c'est la justice sociale, c'est quelque chose à laquelle je suis très 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 attaché. Et de fait, recevoir ce prix-là, c'est une victoire et un triomphe, quoi.
Alors, Jackie Schwartzmann, le relais s'est bien passé. Peut-être vous avez un conseil à donner à votre successeur.
Alors, déjà, la passation de pouvoir, je pense, c'est plutôt bien passé. Non, le conseil, c'est de...
Pas aller en Corée du Nord.
ne pas aller en Corée du Nord. Non, mais plus sérieusement, c'est de, si possible, de prendre le rôle de président du jury de l'année suivante à cœur. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, moi, je me suis vraiment... c'était la première fois que j'étais dans un jury de prix littéraire. Et j'ai trouvé ça plutôt extra, quoi. Voilà, donc si tu peux...
On reste ça, bien devant le micro. C'est le début de tout début de matinée. C'est vrai qu'on est encore un petit peu.
Quel micro ?
Oui, voilà. Le micro avec la boule jaune.
Ah, c'est le truc jaune, d'accord. Non, effectivement, voilà, c'est ça de tenir ce rôle de président correctement, on va dire. En tout cas, moi, je me suis vraiment éclaté à faire ça.
Alors, toujours en quatrième de couverture, il a indiqué à la ligne et le premier roman de Joseph Pontus, et je le disais tout à l'heure, en couverture, il est indiqué Feuillet d'usine. Joseph Pontus, pour vous, c'est un roman ou c'est autre chose, ce livre à la ligne ?
Vous le dites justement, c'est des feuillets et c'est un livre. Après, on a fait en sorte que ce soit un roman, c'est-à-dire qu'à partir d'une expérience vécue et autobiographique et 100% réel, il y a un début, un milieu, une fin, des épisodes, des personnages récurrents, un petit peu d'intrigue, si possible. Mais non, le principal, c'est que ce soit un livre.
Alors, on ne peut pas parler de ce livre sans évoquer le choix de la forme, du style. Il n'y a aucune ponctuation hein, tout au long des quelques 200 pages du livre. Alors, d'où vient ce choix de forme, avec beaucoup de retour à la ligne, bien entendu, beaucoup d'espace
En fait, en travaillant à l'usine... et sur des lignes de production, parce qu'on dit plus des chaînes de production, c'est un peu trop humiliant. La pensée va très vite et j'ai essayé vraiment d'écrire comme je pensais quand je travaillais sur des lignes de production. Et je me suis rendu compte assez vite qu'en rentrant le soir, quand j'écrivais pour consigner mes journées de travail, je retournais à la ligne de manière quasi systématique. Comme tous les matins, je retournais sur ma ligne de production. Et donc la ligne d'écriture et la ligne de production allaient de pair. Et donc le titre est venu assez rapidement, et c'est en ça que à la fois l'usine a imposé le rythme du texte, et moi je me suis imposé ce rythme-là, parce que c'était vraiment la manière dont je pensais quand je travaillais, quoi.
Alors quand on rentre d'une journée de boulot, les journées que vous décrivez finalement, on trouve la force, le courage d'écrire.
Il faut absolument, enfin moi il me le fallait absolument, parce que déjà si on remet un texte au week-end ou au surlendemain, on aura été tellement épuisé et c'est la colère du présent qui se manifeste. Si je remettais un texte au lendemain ou au week-end, j'aurais perdu les trois quarts des impressions que j'avais ressenties parce que la fatigue est dans. Donc il fallait vraiment que j'écrive pour moi et pour me rappeler, pour me souvenir et pour lutter contre contre la machine après chaque journée de boulot, ouais, c'était
parce
fondamental.
Parce qu'on a aussi le sentiment, Jackie Schwartzman, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, que c'est un peu une écriture comme exutoire, comme échappatoire. Mais finalement, on retrouve l'échappatoire au boulot, bien sûr. Hein, mais ce n'est pas vraiment une échappatoire, puisque quand vous écrivez de votre boulot, quoi, vous n'en sortez pas finalement. Ouais.
Alors, ben moi, je pense que j'ai connu les mêmes choses que toi. J'ai été serveur dans une rue à touristes à Lyon, la rue Mercière, avec des hordes de clients et en coupure. Donc, en fait, je travaillais de 10h à 14h et je reprenais à 18h ou 19h. Donc, je fonçais chez moi pour faire comme toi, consigner, écrire tout ce que j'ai pu ressentir dans... Même si le roman que j'avais fait, qui traitait de la restauration, n'est jamais publié, mais je pense que j'ai eu les mêmes obsessions, la même démarche en tout cas.
Donc ça permet, même si on reste dans le cadre du boulot, on s'en échappe quand même en écrivant. Donc.
Ouais, par le haut. C'est une tentative d'échappatoire par le haut, parce que c'est tellement le boulot d'usine est tellement absurde, insensé et exténuant que il y a pas grand-chose. Enfin, moi, j'avais pas d'autre échappatoire que l'écriture. Et c'est une manière d'essayer de donner du sens à ce qui est complètement absurde, en fait. Enfin, moi, d'essayer de trouver du sens. Parce que quand j'ai découvert l'usine à 40 ans, je ne m'attendais absolument pas à ça. Et ça a été un choc inouï en matière de violence sur le corps, sur l'esprit. Et la rencontre avec les collègues et camarades ouvriers, ça a été aussi... Enfin, voilà, on parle... plus du tout de... Enfin, le patronat fait qu'on ne parle plus du tout de classe ouvrière, alors que c'est des usines de... Enfin, en Bretagne, là où j'ai bossé, c'est des usines de 2000 personnes à chaque fois. Mm-hmm. Ce qui est monstrueux.
Alors, pour conclure sur la partie forme, beaucoup de lecteurs, notamment au niveau des membres du jury, ont été impressionnés et se questionnaient sur comment, en fin de compte, vous avez réussi à établir cette rythmique. Est-ce que c'est venu spontanément ou est-ce qu'il y a vraiment un travail où vous vous êtes fixé des règles au bout de trois mots, je vais à la ligne, enfin bon.
Ah non, c'est vraiment complètement spontané. Et c'est vraiment les retours à la ligne et les mots qui sont mis en avant, c'est vraiment pour apporter le signifiant au texte. Donc c'est la respiration et le retour à la ligne est la ponctuation en tant que telle du bouquin. Et c'est venu, non, c'est venu très très rapidement. Et j'ai trouvé que c'était plutôt opérant avec la manière dont je pensais sur mes journées de travail, quoi. Mm-hmm. Donc j'ai vraiment cherché à retranscrire mes journées de travail par ce texte-là. Et il n'y a quasiment pas eu de réécriture sur les phrases en tant que telles et sur les retours à la ligne. C'est venu naturellement, j'aurais tendance à dire, quoi.
Alors, donc, vous nous avez dit que vous avez fait des études de lettres, donc la lecture, l'écriture, bien sûr, mais la lecture, c'est important, et on le sent aussi dans le livre, avec énormément de références, et en particulier, références littéraires, hein, bien sûr, vous citez de nombreux auteurs, vous évoquez de nombreux auteurs, et notamment, vous donnez un coup de projecteur quand même sur quelques auteurs que vous qualifiez comme blessé de la vie. Alors c'est marrant parce que pour évoquer ces auteurs, vous partez de quelqu'un qui n'écrit pas du tout ou qui écrit autrement, Raymond Coppa, que vous avez croisé à Reims, puisque ouais. Vous avez passé votre jeunesse à Reims, et donc lui aussi un blessé de la vie qui a une carrière fulgurante au niveau du football. Et donc vous faites le lien, donc Raymond Coppa qui était mineur, ouais. Avant de devenir footballeur et qui avait perdu des doigts
À la mine.
Voilà, à la mine. Et donc vous faites le lien avec Apolline et Sandrard, ouais. Hein, qui aussi, bien sûr, sont des blessés de la vie. Vous, est-ce que vous vous considérez comme un blessé de la vie ?
Non, par bonheur, j'ai pas eu d'accident à l'usine comme certains de mes collègues ont pu en avoir. Après, le parallèle, ouais, c'est qu'effectivement, il y a des... un taux d'amputation, parce que c'est quand même dans l'agroalimentaire, on bosse tous avec des couteaux. Mmh. Donc tout simplement, quand il y a 2000 personnes et qu'on a 4 couteaux chacun, ça fait 8000 couteaux. Mmh. Donc l'accident arrive vite, même si on est tout harnaché et avec des cottes de mailles, des gants en fer. Enfin, c'est vraiment un attirail moyenâgeux, quoi. Et il y a des passages où, effectivement, j'ai des collègues qui sont qui se font amputer. Et j'ai pas été un blessé de la vie, non, mais je me suis trouvé, moi, sur pour continuer sur le parallèle, sur ma ligne de front, qui était une guerre contre l'usine, qui était une guerre contre les chefs, qui était une guerre contre le temps. Et ouais, et aussi une guerre contre moi-même, parce qu'il faut tenir, il faut tenir. Et le grand réconfort de la lecture d'Apollinaire dans ses lettres à Lou et à Madeleine aux tranchées, j'avais l'impression que c'était, ouais, que c'était un petit peu moi qui me faisais ma petite guerre tous les matins pour aller bosser, quoi, et repartir au front tous les matins.
Oui, parce qu'il y a les blessures physiques, mais il y a aussi les blessures morales. Et là, on est dans un milieu où, de ce point de vue-là, c'est aussi très, très difficile, hein, de se rendre au travail tous les jours.
Il y a plus d'abandon de poste du fait de la difficulté morale que de la difficulté physique. Mm-hmm. J'ai vu pas mal d'intérimaires arriver et puis au bout d'une demi-journée se barrer parce que pas tant que le boulot était difficile physiquement, mais que c'était insupportable à tenir, quoi. Enfin, le bruit, l'odeur, le sang, la mort, faut s'endurcir pour bosser là-bas, quoi.
Au niveau des influences, je pense que quelqu'un qui est important pour vous, c'est Jérôme Leroy, que l'on connaît bien ici à Arras, hein, au Salon du Livre. Il nous accompagne depuis des années. Il est de la région, de Lille. Vous partagez d'ailleurs le même éditeur, La Table Ronde, dont la directrice Alice Déon était présente. Elle est d'ailleurs présente, elle nous écoute ce matin pour la remise du prix. C'est à signaler. Donc c'est une rencontre qui est importante, celle de Jérôme Leroy.
Ah bah Jérôme, ça fait des années qu'on se connaît, et des années, j'étais venu à l'époque quand j'étais éducateur, il y avait un séminaire de la PJJ à Roubaix, donc la protection judiciaire de la jeunesse, et Jérôme m'avait dit, bah viens, on va aller boire des coups, puis tu iras à ton séminaire demain, quoi. Et on s'est rencontrés comme ça, et puis comme je le disais, j'écrivais mes textes tous les jours quasiment, et je publiais à l'occasion sur Facebook toutes les semaines. Et c'est au bout de 2 ans, Jérôme m'a dit, fais-moi une compile et moi j'envoie à mon éditeur parce que j'aime bien, quoi. Donc je lui ai dit, Jérôme, t'es pas bien, enfin, c'est que des textes, c'est pas un livre. Il m'a dit, t'inquiète. Et donc c'est grâce à Jérôme si je suis là aujourd'hui et si ce livre est sorti aujourd'hui. Donc c'est une des principales bonnes fées qui se sont penchées sur ce berceau-là. Donc, non, Jérôme, j'en serai à jamais reconnaissant, quoi.
Jacky Schwarzmann, c'est important d'avoir comme ça...
Un parrain
ou des rencontres dans le milieu avant d'oser d'envoyer le manuscrit.
Je pense que c'est même ce que devrait faire n'importe quel jeune auteur, c'est de se trouver un auteur qui l'aime lire, moi qui l'adore, et de l'approcher. Moi, j'ai fait ça avec Denis Robert. J'ai fait le siège de sa boîte mail. Bon, c'était il y a très longtemps, mais ça s'est passé un peu comme toi avec Jérôme. On a commencé à échanger, il a lu des petites choses que j'avais faites, c'est grâce à lui que j'avais été publié une première fois en 2008. Donc c'était mon premier parrain. Et après, moi, j'ai eu la joie depuis 2 ans de faire beaucoup de salons, de salons comme ici. Et là, de découvrir vraiment une cinquantaine d'auteurs français de polar qui sont tous plus sympathiques les uns que les autres. Ça fait du bien de se sentir d'un coup, on passe de tout seul. J'imagine que tu as bien ressenti ça, la solitude de l'auteur, qui parfois est très bien, hein, il en faut. Et on s'est retrouvé d'un seul coup avec une cinquantaine de types quand même un peu infréquentables. Ouais. Voilà, je le précise pour certains en tout cas. Ouais. Non, ça fait du bien, voilà, c'est vrai.
Alors on en vient...
Et on sera les vieux cons le jour où il y aura des gens qui assiègent notre boîte mail pour nous dire soit bon parrain.
Un jour, il y a un petit con qui va nous écrire, ce sera notre
J'aime
tour.
Beaucoup ce que tu fais, ce que tu peux...
Voilà, et on saura qui ment.
Alors, on en arrive au sujet, donc c'est cette vie de précaire. Je pense que vous connaissez, vous avez vu l'article qui est paru dans le Canard enchaîné, avec un titre qui, qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est pas du bulot. Hein, et l'article qui débute ainsi, il n'a pas attendu Macron pour traverser, en parlant de vous bien sûr, hein, pour traverser la rue et entrer dans une boîte d'intérim, il s'est retrouvé devant des bulots, des tonnes de bulots, le coquillage le plus con qui soit au monde.
Ah ouais, 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 ouais. J'ai eu une mission de 2 mois au bulot, effectivement. Donc, un jour, l'intérim m'appelle et me dit « Tu vas travailler au bulot. » Donc, j'ai cru que c'était une blague. Mais non, c'était pas une blague. C'était pendant la période des fêtes. Pendant la période des fêtes, en fait, il y a des bulots. Toute l'année, les bulots sont congelés et sont décongelés pour Noël. Et en fait, il faut les cuire. Donc, ça passe dans un immense tunnel de cuisson. Et comme c'est que pendant 2 mois... ça coûte trop cher de construire une machine pour décharger les bulots. Et donc, il faut le faire à la pelle. Et donc, décharger 15 tonnes de bulots par jour à la pelle. Ce qui est, moi, au départ, je croyais qu'un bulot, c'était inoffensif. Et au bout de 2 jours, j'ai très bien compris que c'était mon pire ennemi, le bulot. Et puis, évidemment, au bulot et au boulot, c'est quand même un peu... le parallèle est un peu évident, quoi. Et à la fin, je m'y perdais. Je disais à mon épouse, je vais au bulot aujourd'hui. Enfin, c'était complètement... Mais les bulots ont failli avoir... On fait y avoir raison de mon cerveau, mais non, j'ai tenu bon.
Vous en mangez encore des bulots ?
Ah non, j'en mangeais déjà pas avant. des crevettes, j'en mange toujours, de la viande, j'en mange toujours, mais les bulots, je pouvais déjà pas, et ça m'a convaincu, achevé de me convaincre.
Ouais. Oui, donc ce que vous relatez, c'est votre expérience d'intérimaire, ouais. Donc dans des entreprises, des conserveries, poissons, crustacés, mais aussi dans des abattoirs. Et c'est donc du jour au lendemain, on se retrouve face à un bulot, et le lendemain, face à une carcasse de cochon. Ça a duré combien de temps, cette expérience ?
2 ans et demi. Et du jour au lendemain, on peut aussi ne plus avoir de travail. Parce que si on n'est pas assez convaincant auprès du patron ou auprès de l'intérim, parce que l'intérimaire, c'est encore plus précaire que l'ouvrier en tant que tel, parce qu'on n'est pas dans une situation, on n'est plus dans une situation de plein emploi, comme dans les années 60 ou 70. Et donc, il faut toujours être le plus soumis possible pour être sûr d'avoir une mission le lendemain, quoi. Donc, c'est une école à la fois de la résignation et de l'endurance. Le fait de dire, voilà, je suis dans la servitude volontaire absolue. Et le patron me dit, demain, tu changes d'heure, tu fais... au lieu de faire 4 heures du mat, 14 heures, tu fais 8 heures du soir, 8 heures du mat. Obligé de dire oui, quoi.
Alors, même si ces nouvelles conditions de travail, enfin, pas si nouvelles que ça, mais qui se sont développées ces dernières décennies, la précarité, les intérimaires, ça ne contribue pas à créer une solidarité des ouvriers. Néanmoins, quand même, on sent dans votre livre qu'il se passe des choses, même si elles sont silencieuses. Vous vous retrouvez avec un bonbon dans la poche de votre... De votre bleu de travail, il y a comme ça des signes qui n'apparaissent plus comme dans les années, hein, dans les années de développement au niveau industriel, etc. Mais il y a toujours une solidarité,
Ouais. La solidarité, en fait, elle s'effectue à partir du moment où on travaille bien, où on travaille fort, où on travaille dur. Les tirs au flanc sont impitoyablement mis de côté. Il n'y a pas de séparation à l'usine entre intérimaire et ouvrier. À partir du moment où on bosse bien, on est considéré par les collègues. Je ne parle pas des chefs, hein, je parle entre collègues. Et on va toujours faire en sorte que ça soit moins pénible pour l'autre, dans la limite de ses capacités. Et c'est des vraies solidarités silencieuses, effectives. Là, je suis repassé boire le café avec les collègues là, la semaine dernière, enfin mes anciens collègues du coup. Ils étaient ravis de me voir, ils ont lu le bouquin, c'est pas des illettrés. Ils l'ont offert, ils l'ont partagé, et ils se reconnaissent à fond dans ces pages-là, en disant c'est ça notre travail. Et c'est... ils se rendent compte que la littérature peut rendre ce métier noble, et eux ils peuvent être fiers de leur travail. Alors que c'est un travail qui est habituellement décrié pour dire c'est des imbéciles, c'est des bons à rien, des gens foutres, je sais pas quoi dire. Et de fait, voilà, d'avoir le prix Amila Meckert, présidé par Jackie quand même, avec du monde assez prestigieux dans le jury, et en même temps que des collègues ouvriers se sentent fiers de ce livre-là, bah, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument enthousiasmant, quoi.
Alors justement, je voulais vous interroger là-dessus, sur la relation avec les ouvriers, parce que là, vous avez arrêté, en fin de compte. Vous basculez dans le monde du livre, j'ai envie de dire.
C'est ça. Des
écrivains, vous êtes énormément sollicité, vous tournez un peu dans toute la France, dans des librairies, des salons. Et donc là, il y a toujours un lien, quand même, avec les collègues.
J'étais en rencontre dans une grande enseigne culturelle de Lorient il y a pas plus tard qu'une semaine. Et il y a des collègues de mon ancienne usine qui sont encore venus, des collègues lointains que je croisais, enfin vraiment un mec qui était au cochon, moi j'étais principalement au bœuf. Et il me dit pareil, on a acheté 3 exemplaires et on se le fait tourner entre nous. Il y a des ouvriers d'usines que je connais pas qui se sentent aussi concernés, des usines d'haricots verts, le mec il enfourne les haricots verts. J'ai une dame qui était cireuse de queue de poire. Donc elle met en fait le petit bout de cire rouge au bout de la queue de la poire pendant 8 heures par jour. Et elle fait juste 2 gestes et elle met les poires comme ça. Et elle a lu le bouquin et elle s'est reconnue dedans, quoi. Et en même temps, monsieur Pascal Dessin, monsieur Jean Rouault, monsieur Jackie Schwartzmann, enfin. C'est incroyable.
C'est d'autres, un autre type de collègues.
Ouais, mais c'est pas les collègues les plus désagréables du monde, hein, franchement. Sauf à certaines heures pâles de la nuit, mais là, après, c'est...
Jackie Schwartzmann, bon, vous aussi, le travail à l'usine, vous avez connu, et vous avez connu jusqu'il y a très peu de temps. C'est important, ce retour entre le travail d'écriture et puis les collègues de travail, en fin de compte.
Alors, pardon. Mais déjà, moi, je suis comme toi, je retourne régulièrement. Alors, moi, j'ai arrêté il y a 2 mois. Moi, je travaille dans l'industrie. J'étais approvisionneur, mais je retourne effectivement régulièrement voir les collègues. Moi, ce qui est drôle, c'est que j'avais fait un bouquin il y a quelques années qui vraiment décrivait mon service. Et ce qui était drôle, c'est que les gens ne se reconnaissaient pas, mais ils reconnaissaient les collègues. Parce que bon, j'ai un style un petit peu... j'aime bien me... disons que je suis taquin. Et donc chacun me disait, dis donc, qu'est-ce que tu lui as mis à machin là? Et ça me faisait sourire parce que lui-même était 10 pages avant ou 10 pages après. Mais moi, ça a été. Je remarque aussi, oui, que les collègues étaient ravis de ça, quoi. Là, je vais bientôt sortir une bande dessinée, toujours un peu dans mon service, dans ce milieu-là. Et je sais que les collègues attendent ça comme un truc un peu croustillant. C'est un cadeau qu'on fait aux collègues, peut-être pas, mais j'ai l'impression que c'est pris comme ça, en tout cas.
Alors nous entendons carillonner le beffroi d'Arras, c'est-à-dire que ce rendez-vous se termine.
Déjà.
Oui, je voulais quand même lire un court extrait, page 36, en fin de compte du livre de Joseph Pontus. Vous faites une pause dans le travail d'intérimaire et vous revenez un petit peu au travail social. La chéfitude chez les Mongolitos, c'est fini. C'était un peu 3 semaines de PVT, comme on dit au Québec, 15 jours de permis, vacances, travail. J'ai fait de la route, beaucoup. Je pensais aux conscrits des 100 villages d'Aragon, des chapelets de clochers et de noms mélodieux de pays égrenés, de la Normandie à la Belgique, en passant par le Nord-Pas-de-Calais. Je n'arriverai jamais à dire Hauts-de-France. Voilà, là, je lis intégralement. Alors c'est quand même important pour quelqu'un qui vient de recevoir un prix décerné, bien sûr, par Colère du Présent, mais surtout par le département du Pas-de-Calais. Pourquoi vous n'arriverez jamais à dire Hauts-de-France?
Bah, c'est comme le Grand Est, c'est une aberration absolue, quoi. Enfin, faut arrêter de... Historiquement, moi, enfin, je suis de Reims, je suis champenois, je suis désolé, j'ai beaucoup de tendresse pour les Alsaciens, mais j'ai rien à voir avec un Alsacien, quoi. Et... Non, mais c'est vrai, enfin, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Je dis pas qui sont les torchons ni qui sont les serviettes.
Je me désolidarise complètement de...
Et enfin, il y a quand même la ligne bleue des Vosges entre deux, quoi. Enfin, et le Nord-Pas-de-Calais, enfin, pour moi, c'est le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Les Picards n'ont rien à voir là-dedans. Enfin, la Picardie, c'est une entité en tant que telle, quoi. C'est pas Jean-Pierre Pernaut qui va me contredire. Donc, le Nord, c'est le Nord, le Pas-de-Calais, c'est le Pas-de-Calais, et il n'y a pas de Hauts-de-France qui vaille, quoi.
Et l'Alsace est en France.
Et l'Alsace est en France, bien sûr.
Alors, conclusion, je vais reprendre les quelques lignes de conclusion de l'article de Jean-Luc Porquier dans le Canard enchaîné. Voilà longtemps qu'on n'avait pas lu sur la condition ouvrière d'aujourd'hui, plus sensible, percutant, fraternel témoignage. Et ce n'est pas qu'un témoignage, hein. C'est sans doute un livre témoin d'une réalité ouvrière, mais qui va bien au-delà du simple témoignage. Une lecture à conseiller à ceux qui, d'un cœur léger, conseillent aux premiers venus de traverser la rue. Mais une lecture que l'on conseille à toutes et à tous, à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Radio PFM. Voilà, donc vous écoutez Radio PFM donc en direct du Salon du Livre. Nous venons de recevoir Joseph Pontus, lauréat 2019 du prix Jean-Amila Mecker, pour son livre « À la ligne », publié aux éditions de La Table Ronde. Merci à vous, Joseph Pontus.
Merci Guy, et puis pour les auditeurs, il n'y a qu'à traverser la rue pour venir sur la place. Donc
voilà, vous êtes bien entendu présent jusqu'au milieu d'après-midi pour rencontrer lectrices et lecteurs, pour dédicacer votre livre. Merci à Jackie Schwarzmann, présent aussi dans la journée voilà. pour des rencontres. Et rendez-vous donc à toutes celles et ceux qui nous écoutent ici sur la Grand Place d'Arras en ce 1er mai 2019 pour le Salon du Livre d'Expression Populaire et Critique Sociale, qui vous propose tout au long de la journée des lectures, des animations, des concerts et plein d'autres choses encore. Bonne journée à toutes et à tous.